Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel, où nous lirons au chapitre 8. Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset 1er. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du nord, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. » Je levai les yeux du côté du nord, et voici, cette idole de la jalousie était au nord, de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille !» Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici !» J'entrai, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Chaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse fumée d'encens. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays !» Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du nord. Et voici, il y avait des femmes, assises, qui pleuraient à muse. Il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduit dans le parvis intérieur, de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'est. Et ils se prosternaient à l'est devant le soleil. Il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter ? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Et nous relisons le verset 12. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Notre méditation de ce matin va suivre le cours de notre texte qui est rempli des choses qui sont nécessaires pour nous. Et nous voulons considérer le contexte de la situation qui est décrit dans ce passage. Des questions du peuple d'Israël et de Juda qui est maintenant donc exilé à Babylone. Ézéchiel se trouve avec eux à Babylone. Et la vision de notre texte, eh bien, c'est 14 mois après la toute première vision qu'on trouve dans le premier chapitre d'Ézéchiel, et peut-être après que le prophète ait été couché 390 jours sur le côté gauche pour porter l'iniquité d'Israël, et avant qu'il commence à se coucher 40 jours sur le côté droit pour porter l'iniquité de Juda. C'est ce qui est expliqué dans le chapitre 4, du verset 4 au verset 6. Mais à ce moment-là même, eh bien, le prophète il est assis. Il est assis dans sa maison et il n'est pas couché, c'est ce qu'on voit au verset 1er de ce chapitre 8. Et les anciens de Juda, maintenant qu'ils sont en captivité à Babylone, ils attachent plus d'importance à la parole du prophète et ils sont assis aussi devant lui, est-il dit, certainement pour écouter la parole de Dieu dans sa bouche. Et il apparaît que la vision qui va suivre va être entre autres une explication pour eux, afin qu'ils comprennent pourquoi la gloire de Dieu les a quittés et pourquoi ils se sont retrouvés en captivité. Et remarquez que c'est justement quand ils sont en réunion que la main de Dieu va saisir le prophète et que cette glorieuse révélation va lui être accordée et que tout cela va leur être expliqué. Et ça, ça nous rappelle toujours l'importance de nous réunir au nom du Seigneur, puisque c'est là que bien des révélations de la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu et de la bénédiction du Seigneur sont accordées, ainsi que les explications dont nous avons besoin. Ça, c'est en introduction. Alors, ce que nous pouvons déjà voir, en premier, c'est la grandeur de la gloire de Dieu dont il est parlé là, dont il est question là. Lorsque vous regardez les versets 1 à 4, vous voyez qu'il fait appel, il fait référence lorsqu'il dit la gloire de Dieu telle qu'il l'avait vue déjà dans la vallée. Et ça, ça nous parle de ce que Ézéchiel essaye de décrire dans le tout premier chapitre de son livre. Là, vous avez une description de la révélation de Dieu qu'il a eue. Moi, chaque fois que je lis ça, je suis médusé. Chaque fois que je lis ça, j'essaye de m'imaginer, mais c'est inimaginable. Hein. C'est quelque chose de tellement grand. D'ailleurs, le prophète utilise le mot « effroyable » aussi pour en parler. C'est vraiment quelque chose de faramineux, donc, et donc il parle de cela, il décrit cela, c'est la première vision qu'il a eue. Et maintenant, dans celle qu'il y a ici, celle que nous voyons là, nous voyons aussi qu'il est question de la Trinité. Le prophète a affaire à la Trinité. Pourquoi ? Bien parce qu'au verset premier, il nous est parlé de la main du Seigneur, l'Éternel, autant de titres qui sont attribués traditionnellement au Père, et puis il nous est parlé d'une figure ayant l'aspect d'un homme. J'ai mis verset 2, donc, comme du feu, comme de l'air impoli, et ça, ça nous renvoie directement à l'Apocalypse, au premier chapitre de l'Apocalypse, nous avons une description du Seigneur Jésus, il s'agit bel et bien de lui, qui est décrit de cette manière-là, et puis il est question aussi de l'esprit qu'il enlève, dans le verset 3, après que cette forme de main l'ait saisie par les cheveux, il est question de l'esprit qu'il enlève, donc il est question bel et bien du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et il nous est parlé de la présence de la gloire de l'Éternel, de la gloire du Dieu d'Israël, chapitre 8 et au verset 4. Et vous pouvez remarquer que ceux qui sont le mieux préparés à recevoir la révélation divine, ceux qui sont le mieux préparés à recevoir la gloire, voire discerner la gloire de Dieu, ce sont ceux qui, comme le prophète, s'élèvent entre le ciel et la terre, parce qu'il est retrouvé dans cette position-là, on le voit au verset 3, et ça c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on saisisse quand même les choses de la gloire, il faut qu'on saisisse quand même les choses de l'éternité. Vous avez bien des gens ont du mal à saisir cela, et je voudrais vous donner simplement une petite illustration. C'est un serviteur de Dieu qui était aumônier dans un hôpital, qui a donné ce témoignage que je vous lis maintenant. Il dit, en tant qu'aumônier, dans un hôpital, je rencontre de nombreuses personnes qui discutent avec moi de divers sujets. Le médecin, la nourriture, un examen médical qui était désagréable, ses résultats positifs ou au contraire plutôt négatifs, les enfants à la maison, le travail qui n'a pas pu être achevé, etc. À la fin d'une certaine journée, je me rendis encore rapidement dans une chambre à deux personnes. Deux hommes y étaient couchés, l'un déjà d'un certain âge, l'autre plus jeune. Tous deux avaient été opérés au dos ce jour même. Je me suis assis sur un tabouret entre les deux lits et nous avons commencé à parler ensemble. Quand on est couché ainsi toute la journée, à contempler le plafond, on se met à se demander pourquoi on se fait toujours du souci, dit le plus jeune. J'ai ma propre entreprise, je suis devenu père, je suis un homme heureux. Mais quand soudain le corps ne fonctionne plus, on réalise tout à coup que le bonheur a quelque chose à voir avec la santé. Et là, on le sait bien, elle ne durera pas toujours. Et qu'arrivera-t-il alors ? Comment puis-je être sûr qu'il y a encore quelque chose après cette vie-ci ? L'homme couché dans l'autre lit avait écouté attentivement. Puis il dit, « Je vais vous raconter une histoire. Je l'ai entendue une fois, et je me la raconte souvent moi-même, parce qu'elle me rappelle que Dieu se tient toujours près de moi, avant ma naissance, maintenant, et aussi quand je ne serai plus là. Il y avait une fois des jumeaux, deux petits garçons, qui venaient tout juste d'être conçus et qui se formaient dans le secret du ventre maternel. Ils se développèrent et prirent conscience de leur environnement. ils rirent et dirent « Ah, c'est grandiose, grandiose que nous ayons été conçus. Et que nous vivions, c'est super !» Ensemble, ils examinèrent le monde dans lequel ils vivaient. Quand ils virent le cordon ombilical, ils se réjouirent énormément. « Vois combien l'amour de notre mère est grand ! Elle partage sa vie avec nous !» Les semaines sont devenues des mois. Les frères ont remarqué qu'ils changeaient beaucoup. « Que signifie cela ?» demanda l'un d'eux. « Ça signifie que la fin de notre séjour dans ce monde est proche, » répondit l'autre. « Mais je ne veux pas partir d'ici, » dit le premier. « Je veux rester toujours. » « Nous ne pouvons pas choisir, » rétorqua l'autre. « Mais peut-être y a-t-il une vie après la naissance ?»« Comment peut-il y avoir eu de la vie, là ?» dit le premier. « Nous devrons lâcher le cordon. Et comment une vie est-elle possible sans le cordon ombilical de notre mère ?»« Et encore ça, nous avons certes des preuves que d'autres avant nous se sont trouvés ici, mais aucun d'eux n'est jamais revenu pour nous dire qu'il y a une vie après la naissance. Ça doit être la fin !» C'est ainsi que le premier est devenu désespéré, désemparé. Si la conception prend fin dans la naissance, quel est donc le but de la vie dans la matrice? Ça n'a pas de sens. Peut-être n'y a-t-il même pas de mère. Mais il doit y avoir une mère, dit l'autre. Autrement, comment sommes-nous parvenus jusqu'ici et comment nous restons-nous en vie? As-tu déjà vu notre mère une seule fois? Demanda désespéré le premier. Peut-être n'existe-t-elle que dans notre imagination. Oui, oui, peut-être nous l'avons imaginée parce que penser ainsi nous aide à nous sentir bien. Et c'est ainsi que les derniers jours dans l'utérus furent remplis d'angoisse et de désespoir. Finalement arriva le jour de la naissance. Quand les petits garçons eurent quitté leur monde avec peine, ils ouvrirent les yeux et ils pleurèrent de joie, car ce qu'ils voyaient dépassait leur rêve le plus audacieux. Allez, pas besoin de faire de commentaires, hein, ça nous aide. On peut comprendre, hein, les choses de la gloire, les choses du ciel, hein, c'est vraiment des choses, des réalités auxquelles il faut que nous puissions nous attacher. Donc ça, c'est donc notre premier point, considérer la grandeur de la gloire de Dieu dont il est parlé là. Et puis, une chose que nous voyons aussi dans ce passage, c'est la dénonciation complète par Dieu du péché. Hein, c'est-à-dire du péché dans ce qui est visible et dans ce qui est caché. Vous voyez que les idoles extérieures sont dénoncées. Au verset 5, il est question de l'idole de la jalousie. Au verset 14, il est question des femmes qui pleurent Tammuz. Au verset 16, il est question de ceux qui adorent le soleil. Mais je dirais que le cœur du péché, c'est leur péché intérieur, c'est leur péché secret. Et ça, c'est décrit de la façon la plus longue et la plus complète dans les versets 7 à 12, pour bien montrer que c'est là que se trouve la raison de tout le reste. C'est le passage le plus important pour le sujet qui est abordé dans ce chapitre-là. Et c'est ça qui va les amener à prononcer des paroles d'incrédulité et d'impiété que nous avons pu lire tout à l'heure dans la fin du verset 12 et à commettre toutes sortes de mauvaises actions, donc comme il est question dans le verset 17. Donc, et ça nous amène donc au cœur de notre texte. Et voici notre troisième chapitre, justement, la question, la description du cœur du péché. Et là, vous avez une douzaine de choses qui sont à relever et à creuser quelque part pour nous aussi, parce que justement, la première chose qu'on relève à ce sujet, c'est que c'est un péché que Dieu trouve en creusant. Hein, lorsque vous lisez au verset 7 et au verset 8, « Il me conduisait à l'entrée du parvis, je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. » Voilà. Dieu a déjà commencé à creuser. Dieu sait où il faut creuser, vous savez. Dieu sait exactement où il faut creuser. Et Dieu indique aussi à son serviteur où il doit creuser. C'est clair dans ce passage. Et c'est vrai. C'est vrai que le Seigneur indique à ses serviteurs ce qu'ils doivent savoir. Hein, c'est pas, et ceci même parfois par des moyens tout à fait surprenants et étonnants. Ce n'est pas pour satisfaire leur propre curiosité, ou je ne sais pas pour quelle raison superficielle, mais c'est pour le salut. C'est pour l'édification, c'est peut-être pour produire telle conviction de péché, comme dans ce cas-là. Donc déjà, première chose qu'on peut voir, Dieu creuse et aide son serviteur à creuser. Ensuite, la deuxième chose, c'est un péché qui se commet derrière une porte, parce qu'il y a cette porte qui est là, et je dirais qu'à chaque cœur, à chaque âme, à chaque conscience, il y a une porte à laquelle notre volonté et notre conscience ont accès. Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » On peut ouvrir une porte, on peut y entrer, on peut en sortir, on peut la fermer. Et ceci est une image du libre exercice de notre volonté et aussi de notre pleine responsabilité dans l'exercice du péché ou dans le rejet du péché. Et vous avez là ensuite en troisième, décrit au verset 9, un péché particulièrement abominable. Donc l'abomination, c'est déjà un mot terrible, et pourtant ce passage nous parle de quelque chose de pire, de méchantes abominations, est-il dit là. Et c'est vrai, vous savez, quand on a une vision de la gloire de Dieu, et plus on discerne cette gloire, et plus aussi on discerne l'horreur du péché, en particulier du péché d'idolâtrie. Et nous voyons que ce péché d'idolâtrie, c'est vraiment quelque chose qui provoque la jalousie légitime de Dieu. Et c'est pourquoi cette idole est appelée ainsi, l'idole de la jalousie. Il s'agit probablement de cette idole qui avait été fabriquée par Manassé, mise dans le temple de Jérusalem du temps de ce mauvais roi, très mauvais roi. 2 Rois chapitre 21, 2 Chroniques chapitre 33. Et Josias avait enlevé cette idole, parce que Josias, lui, était un roi qui était venu à Dieu, revenu au Seigneur. Mais hélas, parmi ses successeurs, il y en avait qui s'étaient à nouveau éloignés, et ils avaient probablement remis cette idole à ce lieu, dans cet endroit et dans ce lieu. Et certainement avait-il fait aussi ainsi pour les chariots du soleil, qu'il avait trouvé donc à l'entrée de la maison du Seigneur, dans 2 Rois chapitre 23, verset 11, ça nous est expliqué aussi. Donc voilà, un péché particulièrement abominable. Mais une quatrième chose, c'est un péché qui se commet avec des images. C'est ce qu'on voit là dans ce verset 10. Chacun des coupables qui sont ici décrits est entouré des images de ses propres abominations qui lui plaisent. Et c'est vrai que l'idolâtrie, la jalousie qui est ainsi provoquée, commence non pas avec la réalité des choses, mais avec l'image que nous nous faisons des choses dans notre tête. Lorsque vous voyez une publicité à l'utilité d'une voiture et que vous voyez cette voiture n'est pas le problème. Cette voiture n'est pas le problème pour nous, donc en elle-même. Mais l'image que je m'en fais et les envies que je vais avoir et les sensations et les convoitises que j'y associe, c'est là que vient le problème. Cette voiture, c'est une voiture, peut-être une belle voiture, mais elle n'est pas un problème pour moi tant que je n'y attache pas mes rêves, mon imagination et ma convoitise. Et la publicité le sait, vous savez. La publicité, quand elle vous présente une voiture, elle ne vous la présente pas toute rouillée avec des bosses et puis plaide toute sale. C'est pas comme ça qu'elle vous la présente. Elle vous la présente plus belle qu'elle n'est en réalité même. Pourquoi ? Parce que ça doit produire dans notre esprit des désirs qui vont être vite transformés en besoins. Et puis, même si ce n'est pas des réels besoins, on va s'imaginer que ce sont des besoins, et c'est comme ça, hélas, que les choses se font. Et ça, c'est la tentation. Souvenez-vous du Seigneur Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert. Et ces tentations, elles nous évoquent trois puissances. C'est des puissances qui sont encore à l'œuvre dans notre temps. La première puissance, c'est celle du matérialisme. C'est une terrible puissance, celle-là. Donc, transforme ces pierres en pain. La tentation de la consommation et de l'accumulation. La deuxième puissance, c'est celle du pouvoir. Je t'offre la domination sur toutes les nations. C'est donc la tentation de la puissance. Et puis, la troisième tentation, c'est celle de la séduction. Jette-toi du haut du temple afin que les anges te portent et que tous t'admirent. Donc, c'est la tentation de la séduction. Et dans le vocabulaire biblique, ces trois tentations sont des puissances ou des autorités. Pour le pouvoir, pour la richesse et pour la séduction, on a vu des quantités d'hommes qui étaient prêts à renoncer à leurs valeurs les plus chères, étaient prêts à trahir les idéaux les plus nobles. On a vu cela. Et si ces autorités sont présentées comme étant diaboliques, c'est qu'elles exercent sur nous un pouvoir. Et ce pouvoir, pour le vaincre, il est vraiment nécessaire que nous ayons le secours du Saint-Esprit et que nous menions le combat spirituel. Les premiers pères de l'Église donnaient des conseils à ce sujet. Et ils disaient, voilà, la première chose, la première démarche à faire pour vaincre consiste à appeler les choses par leur nom. Ça consiste à nommer la tentation. Nous sommes invités à énoncer les tentations qui nous menacent particulièrement dans notre rapport à l'argent, au pouvoir et à la séduction. Et vous avez un de ces pères de l'Église qui faisait la comparaison suivante. Lorsqu'on cache les yeux d'un bœuf ou d'un âne, on peut le faire marcher en rond pour entraîner la roue d'un moulin. Mais si on laisse son regard dévoilé, Il refuse de tourner autour de la meule. Il en est de même du démon. Il se débrouille pour obscurcir le regard de l'homme. Il l'entraîne dans tous les péchés du monde. Mais si les yeux de l'homme restent ouverts, il peut facilement échapper aux pièges qui lui sont tendus. Le deuxième conseil, la deuxième recommandation pour avoir la victoire, consiste à refuser toute compromission avec le tentateur et à être d'autant plus ferme que nous sommes séduits. Et ces pères de l'Église, eh bien, ils avaient l'habitude, pour beaucoup d'entre eux, de passer du temps de prière dans une petite pièce, une petite cellule personnelle, individuelle, et ils ont utilisé cette image suivante. Si un serpent cherche à entrer dans ta cellule, lorsque seule la tête paraît, il n'est pas difficile de l'écraser avec ton talon. Mais si tu as laissé entrer le serpent tout entier, le combat sera redoutable. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et le troisième temps nous invite à cultiver les antidotes contre ces trois puissances. Et contre la tentation de la richesse, nous sommes invités à vivre avec le partage et la sobriété. Contre la tentation du pouvoir, nous sommes invités à nous inscrire dans l'obéissance à un évangile de service, servir les frères et sœurs. Et contre la tentation de la séduction, nous sommes appelés à mettre de la pudeur et de la discrétion dans nos relations avec les proches, le prochain, et dans l'humilité. Et avec le secours du Seigneur, eh bien, nous pourrons mettre cela en œuvre, nous pourrons le maintenir, et avec la puissance de son esprit, nous serons vainqueurs, et nous pourrons le rester jusqu'au bout. Amen. Amen. Et puis, voilà, si j'avance encore maintenant, dans mon texte, verset 11, je vois qu'il est question de ces hommes qui sont 70. Et ces 70 hommes, ça représente le peuple de Dieu à l'époque. Parce que ça nous renvoie aux 70 anciens qui avaient été nommés par Moïse dans le désert. Et cette tradition s'est poursuivie en Israël. Du temps de Jésus, vous aviez les 70 du Sanhédrin, qui était le conseil supérieur de direction d'Israël. Et le passage nous montre ainsi que cette iniquité a pollué la totalité des représentants, la totalité des responsables du peuple. En fait, pour Dieu, ça montre qu'il n'y a plus de moyen de revenir en arrière, parce que le reste demeurait fidèle est trop peu nombreux et de trop peu d'influence pour faire changer le peuple. Et c'est en quelque sorte la cause du contenu du verset 18, dans lequel Dieu dit « Moi aussi j'agirai avec fureur, etc. Mon œil sera sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. » Pourquoi ? Parce qu'il arrive un moment où la grandeur du péché crie plus fort pour la vengeance et le châtiment que la voix de la prière pour implorer la grâce. Et c'est pour cela qu'il faut veiller, frères et sœurs, à ne jamais nous retrouver emportés dans ce genre de situation. Et puis veillez, priez de tout cœur aussi pour que Dieu intervienne et agisse encore dans ces temps de difficultés croissantes et cette proximité de jugement croissant qui vient aussi. Amen. Et puis une sixième chose, nous voyons que ce péché, dénoncé ici, est aggravé par leur connaissance. Pourquoi ? Parce que dans le verset 11, il nous est parlé de Jaazania, qui est le fils de Chaphan, le scribe. Or, le deuxième livre des Rois, au chapitre 22, du verset 10 au verset 14, nous rappelle que c'est ce fameux Chaphan qui a été le scribe qui a redécouvert le livre de la loi dans le temple et qui l'a apporté à Josias. Et qui a été ainsi, cet homme, le premier moyen de faire venir Josias à Dieu, de le faire revenir à Dieu, et donc le premier moyen du réveil qui s'en est suivi. Donc, Chaphan, ça a été vraiment le moyen de réveil du temps de Josias. Et voilà que Jaazania, fils de Chaphan, se trouve plongé dans toute cette idolâtrie. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les privilèges spirituels que ce fils a eus, en ayant eu connaissance de ce réveil et des causes de ce réveil, eh bien, c'est quelque chose qui augmente sa responsabilité. Jaazania, ça veut dire « l'Éternel entend ». Et ça contraste directement l'affirmation impie du verset 12, « L'Éternel ne nous voit point ». Et dans cette même catégorie d'ailleurs, vous pouvez mettre aussi les 25 hommes du verset 16, qui sont eux dans le temple, mais tournés vers une idole, et ça représente les 24 classes de sacrificateurs, parce qu'ils donc sont dans le temple, plus le souverain sacrificateur à leur tête. Et donc, au lieu de se prosterner dans le temple devant le Créateur, nous voyons que ces hommes, pourtant instruits dans les choses de Dieu, se tournent, se prosterne devant la créature. Hein. Et quelle folie, quelle culpabilité d'autant plus grande qu'ils ont connu et ne s'en sont pas détournés. Mais ça ne va pas être pour leur avantage, hélas, mais bien plutôt pour des inconvénients supplémentaires. Et puis, remarquez une autre chose encore dans ce verset 11 et le verset 12 suivant, c'est que c'est un péché parce que chacun veut être son propre maître. Vous retrouvez ce mot, chacun, chacun. Chacun veut faire sa propre petite popote religieuse. Hein. Chacun veut arranger les choses de Dieu à sa façon. Chacun cherche la combinaison de croyances qui l'arrange. Hein. On m'a dit il y a quelque temps qu'en Afrique, il y aurait 9000 sectes et qu'un Africain sur 5 en ferait partie. Je vais vous dire, en France, il y en a certainement beaucoup plus que 9000. Pourquoi ? Bien parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils prennent un peu de la religion qu'ils ont connue, ils vont en chercher un petit peu à gauche et un petit peu à droite, ils vont sur Internet récupérer ceci et puis, ailleurs récupérer encore cela. Ce qui les arrange, ils en font une combine. Et c'est pour ça que vous avez vraiment aujourd'hui la réalisation de cette prophétie de l'apôtre Paul concernant les derniers temps, lorsqu'il dit dans les derniers temps, les hommes se chercheront une foule de docteurs suivant leur propre convenance. On est vraiment dans ces temps-là, c'est vraiment cette réalité. Comme ça, chacun fait ce qu'il veut et chacun fait tout ce qui lui plaît. Et c'est le règne de l'individualisme qui va de pair avec le relativisme. Donc, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous revenons vraiment à cette période de décadence qui est décrite dans spécialement la fin du livre des Juges, dans lequel on trouve vraiment des choses surprenantes par leur culpabilité grave. Et voilà, on rejette la loi de Dieu, hein, parce que c'est considéré comme un joug trop pesant, et on devient ainsi insoumis à Dieu et à son Église, parce qu'on ne veut pas non plus se lier, bien sûr, à un corps de croyants. Hein, donc, on ne veut pas se plier à une soumission mutuelle. Mes frères et sœurs, tout ceci, par contraste, nous rappelle l'importance de l'attachement à l'Assemblée et de la pleine soumission à toute la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et puis c'est un péché aussi, remarquez bien, pour lequel ils sont prêts à beaucoup dépenser, parce que dans le verset 11, il nous est dit qu'il y a une épaisse fumée d'encens. Une épaisse fumée d'encens, ça coûte cher. Hein. Mais pour leurs idoles, ils sont prêts à dépenser, ils sont prêts à se dépenser sans compter. Et la question, c'est dans quelle direction vont tes libéralités ? J'ai eu l'occasion de discuter il y a quelque temps avec un comptable qui m'expliquait, mais moi, lorsque je regarde un bilan financier, eh bien, je peux savoir exactement comment fonctionne l'entreprise. Je peux savoir exactement ce qui est considéré comme le plus important et comme ce qui est considéré comme le moins important. Simplement en lisant les chiffres, tant que je vois ça directement. Et c'est vrai. Et c'est vrai dans le domaine spirituel aussi. Hein. Dans quelle direction vont tes plus grandes préoccupations ? Pourquoi es-tu prêt à faire le plus de frais et le plus de sacrifices ? Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a un indice encourageant et réconfortant quand les libéralités, quand le sacrifice du temps ou des moyens en payant de sa personne vont vers l'œuvre du Seigneur et vont vers la gloire de Dieu. Hein ? La générosité, selon Dieu, c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Mais comment est-ce qu'on peut définir cette générosité ? L'apôtre Paul recommandait aux Corinthiens, c'est dans le chapitre 8 de sa deuxième épître, il leur recommandait de faire preuve de grande générosité. Et il leur donnait pour cela l'exemple des croyants de Macédoine. Alors, j'aime pas toujours lire les paraphrases de la Bible, mais dans cette occasion précise, je vais faire une exception parce que ça aide à comprendre l'état d'esprit dans lequel étaient les croyants de Macédoine. Je vous lis cela. Donc, c'est la paraphrase de 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Je tiens à vous parler de la manière surprenante et merveilleuse à la fois avec laquelle Dieu est en train d'œuvrer parmi les églises de la province de Macédoine. Une persécution sournoise s'est abattue sur les membres de ces églises, mais ces épreuves ont dévoilé ce qu'ils avaient vraiment dans le ventre. Malgré leur pauvreté et leurs difficultés, ils n'ont pas perdu une once de leur joie. Au lieu de crouler sous le poids de l'épreuve, ils ont réagi d'une manière tout à fait inattendue. Ils se sont mis à rassembler une quantité de dons, offrant tout ce qu'ils pouvaient, beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient, nous suppliant de leur permettre d'exprimer leur générosité envers les autres comme un privilège à leur accorder. Leur réaction était totalement spontanée, imaginée par eux seuls, et ne laissa pas de nous surprendre. La seule explication que nous pouvons donner, c'est qu'ils avaient décidé auparavant de se consacrer corps et âme au service de Dieu et de nous-mêmes. Leur générosité était l'expression matérielle de la volonté de Dieu à travers leur vie. Voilà. Et vous pouvez remarquer ces deux détails. Ils avaient consacré leur vie à Dieu sans aucune réserve et ils avaient compris que tout ce qu'ils possédaient venait de Dieu et dépendait de sa grâce. En fait, la vraie générosité, hein, ce n'est pas de donner parce que, je ne sais pas, quelqu'un est en train de vous supplier de donner pour l'Église, ou bien parce, la vraie générosité, ce n'est pas parce qu'on se sent coupable d'avarice, peut-être, ou de donner parce qu'on veut conclure une espèce de marché avec Dieu. Non, ce n'est pas ça. Hein. La vraie générosité, c'est l'expression du trop-plein de grâce et de bonté divine dans notre propre vie. Voilà. Quand on est convaincu de cela, quand on a vraiment l'assurance, la conviction de cela, alors cette générosité se manifeste. Amen. Et puis c'est un péché, revenons-en au verset 12, un péché commis dans les ténèbres, est-il dit. Donc, c'est-à-dire en cachette. C'est-à-dire qu'il s'agit de choses honteuses, de choses inavouables. L'apôtre nous parle des œuvres infructueuses des ténèbres, des choses qui sont faites dans les ténèbres, qui sont si terribles et si mauvaises que même des croyants ne devraient pas, ne doivent pas mentionner cela. Hein, donc, et les enfants de Dieu se reconnaissent aussi au fait qu'ils ne veulent plus rien avoir de semblable dans leur vie. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ça. Ils vont rejeter, est-il marqué, les œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent marcher dans la lumière, loin de ces choses. Et c'est ainsi que le sang de Christ les purifie de tout péché. Et c'est ainsi aussi que le Seigneur les rend vainqueurs. Amen. Et j'avance encore ce péché en dixième. Eh bien, c'est celui de chacun dans sa chambre pleine de figures, est-il dit au verset 12. Et ça peut être traduit aussi dans la chambre de son imagerie, la chambre de sa fabrique d'images. C'est intéressant, parce que nous avons tous une fabrique d'images. Nous avons tous une imagination intérieure à laquelle d'ailleurs personne d'autre n'a accès, normalement au moins. Hein. Et nous pouvons nous y fabriquer nous-mêmes des images de toutes sortes que nous pouvons réserver à nous seuls. Et je ne sais pas quelles images il y a dans l'esprit de l'un ou de l'autre d'entre nous, par exemple, depuis le début de ce culte. Il peut y en avoir sur le sol, sur les murs, sur le plafond de cette chambre. Ça peut être tapissé d'images. Et ces images peuvent être animées, ces images peuvent changer, elles peuvent être fascinantes. Elles peuvent être belles, elles peuvent être aussi horribles, mais de toute façon, cette ou ces chambres intérieures ne restent pas sans images. Quoi que nous fassions, il y en aura, c'est sûr et certain. Hein, donc, et ce n'est pas pour rien qu'il est écrit, il est dit plutôt, que nous avons une imagination. Hein. L'imagination, c'est quelqu'un qui disait que l'imagination, c'est la folle du logis. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est Pascal qui disait que c'est une maîtresse d'erreur et de fausseté. C'est la principale des puissances trompeuses qui empêche l'homme de parvenir à la vérité. Et dans notre relation avec Dieu aussi, l'imagination peut nous égarer. Elle peut nous faire croire des choses fausses au sujet du Seigneur. Je vous donne par exemple trois exemples bibliques. Vous avez l'homme religieux qui croit ainsi que parce qu'il a le nom de Dieu à la bouche, ça suffira pour qu'il soit déclaré juste. Voilà ce que dit le Seigneur. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. L'homme religieux aussi s'adresse à Dieu en multipliant les mêmes vaines paroles. C'est pour ça que Jésus dit, il s'imagine à tort qu'à force de paroles, il sera exaucé. Voyez-vous ? Et l'apôtre Jacques nous rappelle encore que l'homme religieux prie et qu'il demande à Dieu des choses sans trop y croire. Et il ajoute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, la relation que Dieu a avec nous, ce n'est pas une relation imaginaire. Ce n'est pas une relation qui est basée sur des sensations. C'est une relation qui est basée sur la parole de Dieu, sur la vérité et sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et ça, ce sont des réalités. Parce que c'est ça qui est capable de susciter en nous la foi qui demande et qui va recevoir. Et c'est comme cela que, si nous prions d'un cœur sincère, eh bien nous serons exaucés par la grâce et la puissance de notre Dieu. Amen. Amen. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de gérer notre imagination. et les images qu'elle produit. Pourquoi ? Bien parce que ces images sont produites par nos expériences et aussi par notre inconscient et par notre subconscient et par ce que nous avons pu vivre dans notre petite enfance et par nos lectures et par ce que nous voyons et par voilà, notre environnement journalier, etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir à Christ. Parce que lorsqu'on vient à Christ, eh bien, notre imagination va être lavée et purifiée par son sang, d'une part. Et ensuite, le Seigneur va nous aider à installer aussi des filtres dans notre imagination pour que nous puissions contrôler ce que nous y arrive. Et que le Seigneur agisse ainsi pour nous donner sa vision des choses, pour nous donner la vision, la vision d'en haut, cette vision qui va nous motiver et qui va nous donner la force d'aller dans la bonne direction et de ne pas nous laisser subjuguer. Hein, là aussi, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'attaque, de l'offensive diabolique qu'il y a en ce moment, au travers des flots, des flux ininterrompus d'images qui sont destinées à saturer toutes nos défenses naturelles et spirituelles. Hein, il faut réaliser cela. En particulier aujourd'hui, ben, vous savez, la multiplication, vous le savez, de flots d'images hein, en deux dimensions et même de plus en plus en trois dimensions. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, on voit aussi ces idoles en trois dimensions qui sont là, la reproduction de cette image devant laquelle il faut se prosterner en trois dimensions. Et ceux qui ne veillent pas, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ceux qui ne veillent pas, ben ils vont se retrouver malades. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire une indigestion d'images. Imaginez que vous alliez voir le médecin en lui disant « Docteur, j'ai trop mangé, j'ai une indigestion, je voudrais que vous me soigniez. » Qu'est-ce qu'il va dire le docteur ? Il va dire « Mais mangez moins. » Il va dire « Arrêtez de manger comme ça. » Parce qu'il se dit « Docteur, mais je ne peux pas m'empêcher de manger, mais regardez, j'ai une indigestion, puis tiens, j'ai encore faim, je vais encore remanger derrière. » Non, ça ne va pas, vous avez un problème, madame ou monsieur. Non, il faut que vous acceptiez de manger moins. Il faut que vous surveilliez ce que vous mangez. Hein ? Et avec les images, c'est la même chose. Quand on a une indigestion d'images, vous savez ce qui se passe ? Eh bien, notre esprit est bouché. Notre esprit devient insensible. Il devient insensible aux choses de Dieu. Le pasteur prêche le dimanche, mais qu'est-ce qui se passe ? Dans notre tête, on a des quantités de choses qui passent et qui nous remplissent. Et après, quand la prédication est finie, on n'a rien retenu. Voilà. C'est ce qui se passe quand on est dans cette situation-là. Hein, donc voilà, et c'est pour ça qu'on est vraiment au cœur de ce qui est important, et puis de ce qui va faire que notre vie va s'orienter ici ou va s'orienter là, que nous allons nous orienter soit vers le péché, soit vers la gloire. C'est un grand point stratégique, et c'est pour ça qu'il faut bien nourrir la chambre de notre imagerie. Qu'en est-il dans ta vie ? Qu'en est-il déjà depuis ce matin, par exemple ? Quelles sont les images qui sont dans ton esprit ? Est-ce que tu sais ce que c'est que la vision divine ? Est-ce que tu as pris des positions à ce sujet ? Je continue, et mon point suivant, le 11e, concernant cette dénonciation de ce péché profond, ça consiste à prononcer ensuite et en même temps des paroles négatives et incrédules. C'est ce qu'on a vu là, dans ce verset 12, aussi, hein, il était dit, il me dit, fils de l'homme, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance terrible de destruction qu'il y a dans des paroles d'incrédulité. La puissance extraordinaire de vie qu'il y a aussi dans des paroles de foi. Mais quand même, moi, là, je suis toujours frappé lorsque je lis le récit du retour des 12 espions, vous savez, quand ils étaient allés explorer le pays avant la conquête de Canaan, ce que Dieu aurait voulu être la conquête de Canaan, hein, donc voilà. Et quand vous en avez 10 qui ont fait un compte-rendu négatif, donc ils ont prononcé des paroles de découragement et ça a eu effectivement un terrible effet, un raz-de-marée de découragement qui est venu sur ce peuple. Et Josué et Caleb ont eu beau venir derrière en disant « Mais non, le Seigneur va être avec nous, le Seigneur va nous aider à vaincre. » Et puis, ils ont certainement voulu donner des exemples. Ils disent « Mais rappelez-vous comment le Seigneur nous a secourus dans le désert. Rappelez-vous comment Dieu nous a tirés de l'Égypte à main forte et à bras étendus. » Tout ce qu'ils ont pu dire n'a pas eu d'effet. Au contraire, nous voyons qu'ils étaient prêts à tuer Josué et Caleb encore. Et tout ça à cause de quoi ? À cause de paroles négatives. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Si à la maison, par exemple, des parents prononce des paroles, je ne sais pas moi, d'incrédulité, de critique ou que sais-je, ça aura plus d'effet. Une parole de ce genre aura plus d'effet que 10 prédications du pasteur le dimanche. Sur les enfants, je veux dire. Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a une puissance dans les paroles qu'on prononce. Il y a aussi une puissance énorme dans les paroles positives, les paroles de foi qu'on peut prononcer. Hein. Rappelez-vous, je reprends la parole donc de doute qui a été prononcée par le père de cet enfant possédé qui se jetait dans le feu et dans l'eau. Il s'adresse à Jésus avec ces mots, ben, « Si tu peux faire quelque chose. » Et puis alors Jésus le reprend tout de suite. Comment ça, si tu peux ? Tout est possible à celui qui croit. Jésus le reprend sur les paroles qu'il vient de prononcer là. Et cet homme réalise qu'il a mal parlé. Il réalise d'un seul coup. Et puis il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus fait le miracle. Parce qu'il fallait confesser positivement la foi. Même si c'était dans ce cas-là, bien, nous voyons que cette repentance que le Seigneur a acceptée. Et quand on dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de quoi ? De quoi je suis délivré ? Confessez-le ! De quoi je suis délivré ? De tous mes ennemis. Amen ! Il faut le confesser, frères et sœurs. Mais vous avez vu quand même, je m'écris, loué soit l'Éternel. Ça veut dire que j'en suis convaincu. Je suis convaincu que le Seigneur est puissant pour me délivrer. Je suis convaincu que le Seigneur est digne de louange. Je m'écris cela. Donc, cette conviction est forte dans mon cœur. Et c'est de cette manière aussi que je le loue de tout mon cœur et que le Seigneur va se glorifier. Je me souviens, bon, je pourrais donner des quantités d'exemples, mais je me rappelle simplement dans le chapitre 27 du livre des Actes des Apôtres. Là, nous voyons l'apôtre Paul qui se retrouve avec ses compagnons ballottés depuis 15 jours au milieu de la tempête. Et puis, ils ont fait tous leurs efforts et ils voient que ça arrive au bout. Et il est marqué, nous perdîmes enfin tout espoir de nous sauver. Et c'est là qu'il reçoit une révélation dans la nuit de l'ange qui lui parle. Et puis il arrive le matin vers ses compagnons qui sont là, battus, désespérés, découragés. Et puis il prononce le message que l'ange lui a donné. Il prononce des paroles de foi et d'espérance, des paroles positives, des paroles encourageantes, vraiment. Et puis bon, et puis il est entendu. Et puis les gens prennent cela à cœur. Moi, certains prennent cela à cœur. Et donc ça a toutes sortes de bon résultat, parce qu'effectivement, la promesse va s'accomplir, le miracle va se réaliser, le bateau va être perdu, mais eux, toutes les vies vont être sauvées, et puis il va y en avoir toutes sortes d'autres bonnes conséquences, des bonnes répercussions, d'excellents effets dans la suite. Tout ça par une parole de foi. Amen. Une parole de foi qui confesse la confession, la puissance de la confession positive de la parole de Dieu qui est une force de vie et de résurrection. Amen. Et puis voilà notre péché, un 12e point sur ce sujet, c'est un péché qui rejette la responsabilité sur Dieu. Ils prétendent que Dieu a abandonné le pays, alors ils accusent Dieu et disent qu'ils ont été obligés de chercher du secours ailleurs, donc ils se sont tournés vers les idoles, et nous voyons que cette mauvaise foi est absolument insupportable pour le Seigneur. En fait, on s'aperçoit que si Dieu donne cette vision au prophète, c'est pour deux raisons. Déjà, en premier, montrer que la réalité est différente de ce qu'ils prétendent, de ce qu'ils ont prétendu, même ces anciens d'Israël, de ce qu'ils ont prétendu, ce n'est pas Dieu qui a abandonné le pays. Puisque lorsqu'ils tournaient vers les idoles, la gloire de Dieu était encore là, c'est ce qu'on voyait au verset 3. En fait, ce sont eux qui l'ont abandonné. Puis la deuxième raison, c'est pour montrer justement quels sont les péchés qui provoquent le départ de la gloire de Dieu. Et ça nous montre bien que c'est aussi la responsabilité des hommes, que la responsabilité est du côté des hommes. Et il fallait que ces anciens assis devant Ézéchiel le comprennent. Et je crois qu'il est bien nécessaire que nous puissions saisir aussi cela chacun pour prendre les dispositions qu'il faut prendre. Alors maintenant, mon 4e chapitre me fait considérer le contexte suivant, c'est-à-dire les chapitres qui suivent. Au chapitre 9, vous avez la suite de la description du jugement des idolâtres. Au chapitre 10, il nous est expliqué comment la gloire de l'Éternel quitte le temple, quitte la ville et quitte ensuite le pays. Et puis ensuite, voilà, alors là nous sommes, là nous allons quand même relire encore ce dernier texte, chapitre 11, versets 1 à 4. L'Esprit m'enleva, me transporta à la porte orientale, à l'est de la maison de l'Éternel, celle qui regarde l'est, et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel Dieu me dit, « Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. » C'est quoi ces hommes-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ces hommes-là, ils ne peuvent pas dire que le prophète a tort, puisque les choses qu'il avait prophétisées se sont réalisées. Donc, l'évidence est là, ils ne peuvent pas dire cela. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont commencer à se dire, ben, c'est pas le moment encore. C'est pas encore le moment de s'engager. C'est pas encore le moment de prendre une décision. Hein, nous pouvons encore bâtir, nous attacher aux choses de la terre et remettre ces décisions, ces appels divins qui sont induits par le message du prophète, les remettre à plus tard. Et ça s'ajoute à la liste de tous les péchés précédents et ça accélère la venue du jugement parce que justement Dieu voit qu'il n'y a pas de repentance en vue. Hein, c'est ça le problème. C'est un péché qui enlève toute force aux avertissements prophétiques. Et il encourage de façon irrésistible un relâchement. La remise à plus tard de mettre en cause, donc, de toute mise en remise en cause et de tout engagement qui devrait être pris sans tarder pour Dieu. Ça me rappelle ce qui s'est produit au temps de Josué. Rappelez-vous, lorsque Josué a vu approcher la fin de sa vie, il a convoqué les anciens d'Israël, les chefs, les juges, les officiers d'Israël, leur a dit, vous avez vu tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait à ces nations devant vous. Josué 23, verset 3. Et c'est vrai. Ces hommes qui étaient présents, pour la plupart d'entre eux, avaient vu comment Dieu les avait nourris au désert. Ils étaient encore gamins à l'époque. Comment Dieu multipliait la manne. Hein. Et puis ensuite, ils avaient vu comment le Jourdain s'était ouvert pour laisser entrer le peuple. Ils avaient vu comment les murailles de Jéricho étaient tombées. Ils avaient vu tous ces miracles-là. Ils avaient vu toutes ces choses et ils savaient. Et à ce moment-là, Josué les met clairement au défi et leur dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, verset 15. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Remarquez ce qui est marqué. Il est marqué au verset 31 de ce même chapitre 24. « Israël servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué. » Mais vous savez, le problème, c'est qu'ils l'ont trop souvent servi superficiellement. Seulement quand ça les arrangeait. Le gros du travail a été fait. Il restait plus qu'à le finaliser pour supprimer les dernières traces du culte païen. Malheureusement, il est marqué, Israël ne chassa pas les habitants. Alors que Josué avait consacré sa vie, et puis quelques autres avec lui, à servir Dieu de tout son cœur, les anciens du peuple n'étaient pas totalement consacrés à Dieu. Hein. Et le résultat, c'est que leurs fils et leurs filles se sont mis à épouser les voisins païens. Et qu'ils ont commencé à adopter leur mode de vie qui était dominé par le péché et l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans Juges chapitre 2 au verset 10, « Il s'éleva une autre génération qui ne connaissait point Dieu. Ils l'irritèrent et ils persévérèrent dans la même conduite égoïste et dans le même endurcissement. » Par quoi ont été façonnées les valeurs spirituelles de ces jeunes-là? Eh bien, par les compromissions qu'ont acceptées leurs parents. C'est la décadence qui s'est produite pour cette nouvelle génération, et ça nous aide à comprendre que nous sommes en grande partie formés par l'attitude de nos parents, et ça nous laisse comprendre aussi aux parents quelle influence positive ou négative nos propres décisions et nos propres engagements peuvent avoir sur nos enfants. Parents, c'est vous qui ouvrez la marche. Hein? Et c'est pour ça que c'est tellement important de se conduire chaque jour devant eux, suivant ce mode de vie qui plaît au Seigneur. Amen. Et puis j'en arrive donc maintenant à la conclusion. Et la conclusion, c'est quoi? Mais la conclusion, c'est qu'en est-il de ta chambre pleine d'images? Hein, c'est là. Qu'en est-il de la chambre de ton imagerie? Le Seigneur est celui qui veut purifier ton cœur et ton imagination pour qu'il puisse y mettre la vision qui est à sa gloire, la vision de sa gloire aussi. Et qu'en est-il des prises de position qu'il te faut prendre sans tarder, sans écouter cet argument qui dit que ce n'est pas encore le moment, hein, que ce n'est pas encore le temps? La parole de Dieu nous dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir » afin d'hériter aujourd'hui une bénédiction. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, dit l'apôtre. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la voie qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions et te bénissons encore pour ton secours et ton soutien, pour ta parole vivante et efficace, pour la grâce avec laquelle tu agis encore, Seigneur, envers nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ces merveilleux désirs que tu as pour ton peuple, que tu as pour tes enfants, pour chacune et chacun d'entre eux, Seigneur. Merci parce que tu veux mettre dans nos cœurs des réalités glorieuses, une vision céleste admirable et magnifique, Seigneur. Tu veux vraiment mettre en nous la vision de ta volonté pour nos vies, la vision de ta gloire aussi, pour nous affermir et nous encourager, Seigneur. Merci, notre Dieu. Tu veux nous donner une vision des choses de la gloire, une vision des choses d'en haut, Seigneur, et tu veux faire cela pour chacune et chacun d'entre nous. Mais Seigneur, c'est vrai qu'en ce jour aussi, eh bien, tu es celui qui veut purifier nos cœurs, Seigneur, pour que tout ce qui n'est pas à ta gloire puisse en être banni, puisse en être écarté, Seigneur, et que nos vies puissent désormais être consacrées, que nos vies puissent être véritablement selon ta volonté. Merci, Seigneur, c'est toi le vainqueur, c'est toi le Tout-Puissant, et béni sois-tu encore pour la manifestation de ta grâce et de ta puissance. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il y a plusieurs annonces. La réunion de prière à mercredi à 16h, toujours. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour y participer. La prédication, le témoignage en ligne, donc vendredi à 20h15 sur le site de l'Église. L'évangélisation samedi dans les villages, donc en boîte aux lettres, toujours rendez-vous ici à 14h30. Alors la nouveauté, c'est qu'à partir du 16 juin inclus, la réunion de prière du mercredi va reprendre l'ancien horaire, qui est à 20h15, puisque le couvre-feu doit être repoussé à 23h. Donc ça veut dire que mercredi qui vient, c'est à 16h, le mercredi suivant, c'est à 20h15. Et à partir du 16 juin inclus, nous avons aussi la reprise de l'école du mercredi, pour les enfants de l'âge du collège. Donc, pour eux, le rendez-vous, c'est à 14h ici. Et les parents qui veulent que leurs enfants y participent, manifestez-vous, s'il vous plaît, à la fin du culte. Encore le samedi 19 juin, à 14h30, nous avons l'Assemblée générale de l'association cultuelle, l'Assemblée générale annuelle. Tous ceux qui sont baptisés ou membres de l'Église depuis un an, vous êtes invités à y participer. Donc, la convocation est sur le tableau d'affichage au fond de la salle. Et j'invite vraiment tous ceux qui ont l'œuvre de Dieu à cœur, tous ceux qui veulent voir le bilan de ce qui a pu se passer, puis aussi la manière dont les choses vont pouvoir s'orienter, eh bien, vous êtes invités, évidemment, à participer à cette Assemblée générale du 19 juin à 14h30. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.